l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé.
Dans la vallée du Lot.
Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et bonjour à toutes et à tous, et merci d'être fidèles à Radio Présence. Il est 12h, passé d'une petite minute, dans les studios de Radio Présence Lourdes-Pyrénées, d'où j'ai le plaisir de partager avec vous ce Présence Midi un petit peu spécial, puisque cela ne vous aura pas échappé, nous sommes le vendredi saint. Et donc un petit programme un petit peu spécial, puisque dans quelques instants, nous allons retrouver la chronique solidaire de Anne Deslois, qui sera en compagnie de Elisabeth Lemière. Ils nous parleront du Vendredi Saint. Et puis Anne-Rose Jankovic, si vous le voulez bien, elle nous proposera, elle, de découvrir un saint bien connu dans notre région, puisqu'il s'agit de Saint Cernin, ou autrement appelé également Saint Saturnin. Elle sera pour cela en compagnie du Père Benjamin Martin, curé de la paroisse de Luz-Saint-Sauveur, une ville bien connue également de notre région. Un programme un petit peu spécial, puisque nous allons dans quelques instants nous retrouver en direct des studios de Présence Lourdes-Pyrénées avec David Torchala et ses invités. D'ailleurs, je vous propose de le retrouver immédiatement. Bonjour David.
Oui, bonjour cher Joseph, bonjour à tous. Oui, je suis avec le Père Baptiste Pochulu, qui est responsable de la liturgie et cérémonière du sanctuaire. Avec lui, nous allons entrer dans ce mystère de Pâques et de la passion du Christ. Et puis je suis également avec Robin Dupont, qui est conservateur du sanctuaire, puisqu'évidemment c'est le jour du chemin de croix. Nous en avons deux emblématiques dans le sanctuaire et on va découvrir ces œuvres monumentales.
Eh bien, je vous propose de débuter dès maintenant, puisque nous disposons d'une petite demi-heure pour cela.
Merci Joseph. C'est vrai que nous vivons peut-être l'un des jours, j'ai envie de dire, peut-être les plus bouleversants de l'année chrétienne en ce Vendredi Saint, ce jour où les chrétiens commémorent l'arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. Nous faisons mémoire de la condamnation d'un innocent par le procureur romain Ponce Pilate, puis de son exécution selon les règles romaines, la flagellation et la crucifixion. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, Père Baptiste Pochulu, puisque il n'y a pas de messe. On peut dire que l'Église entre en deuil. Pour vous qui êtes responsable de la liturgie au sanctuaire de Lourdes, également cérémonière, c'est un jour tout à fait particulier.
C'est vrai que dans le rythme de la vie liturgique, de l'année liturgique que vit l'Église, le Vendredi Saint et le Samedi Saint sont deux journées très particulières, puisque c'est ce que disent les rubriques du missel. Selon la tradition, ces jours-ci, l'Église ne célèbre pas les sacrements, sauf bien sûr le sacrement de pénitence et de réconciliation, et puis le sacrement des malades. Mais effectivement, pas d'Eucharistie, pas de baptême, pas de tous ces sacrements qui font la vie de l'Église. Et donc jour de silence, jour de grand silence, aujourd'hui vendredi, en accompagnant le Christ dans son chemin de croix et la lecture de la Passion selon Saint Jean que nous avons à l'office de la Passion, nous replonge dans toute cette journée cruciale, fatidique, bouleversante que le Christ a vécue pour nous. Voilà. Et puis demain, le samedi, cette journée de silence selon la tradition de l'Église. Et donc en entrant dans le Triduum, enfin, ce qu'on a avec l'office de la messe du soir, la messe in cena domini, donc qui fait mémoire de ce dernier repas du Christ que nous avons célébré hier soir. Voilà, le Christ célèbre son dernier repas. Il part à Gethsémani, voilà le sens de la procession jusqu'au reposoir, cette nuit d'adoration au reposoir qui nous replonge dans l'évangile selon saint Matthieu. Et puis voilà, aujourd'hui, eh bien, on le revit pas à pas, concentré dans une seule célébration, mais effectivement, après cette arrestation dans la nuit, les différents procès, et puis à partir du matin, eh bien, ce chemin de croix jusqu'au Golgotha, jusqu'à la crucifixion, avec, selon la tradition, enfin voilà, le Christ qui meurt en début d'après-midi.
Vous avez, Père Baptiste, personnellement présidé cette messe de la scène du Seigneur hier en la basilique Saint-Pédis, cette basilique souterraine dans le sanctuaire. On vous voit très souvent, évidemment, à côté de l'évêque ou du prêtre qui préside la célébration. Cette fois, c'est vous qui avez présidé. Comment vous avez vécu cette célébration ?
D'une manière complètement différente. Le constat que je fais, c'est que comme cérémoniaire, il faut porter la célébration dans le sens, il faut permettre aux gens de prier. Et comme président de la célébration, il faut prier. Voilà, de manière, c'est une forme de prière qui est complètement différente. Je dis pas quand je suis cérémoniaire, je prie pas, c'est pas ça. Mais
j'allais
effectivement,
vous poser la question.
Non, quand même pas. Mais c'est le porter de manière différente. Voilà, et il faut se laisser porter. Fait voilà, poser les gestes avec un sentiment, peut-être quelque chose d'assez différent. Et donc effectivement, le positionnement est très différent. Et je suis peut-être sorti avec une fatigue beaucoup plus grande de la célébration hier soir que si j'avais été cérémoniaire. Donc c'est quelque chose de magnifique, de bouleversant. Et puis c'était la première fois que je présidais une messe à Pédis, et surtout depuis que je suis prêtre, c'était la première fois que je présidais cette messe in cena domini. Donc c'était la première fois que effectivement c'était moi qui lavais les pieds à des confrères, à 12 personnes. Enfin voilà, donc des gestes.
Est-ce qu'on
forts.
Peut s'arrêter juste un instant quand même sur ce lavement de pieds, se mettre par des actes concrets, enfin, dans la peau du Christ lui-même, comment vous avez vécu ce moment ?
Ah ben de manière vraiment bouleversante. Enfin, face à moi, il y avait trois confrères, dont un aîné, très aîné italien. Il y avait également deux personnes en fauteuil roulant. C'est impressionnant de toucher ce pied. Qui n'a pas de mobilité, dans le sens où effectivement on fait très attention même à l'articulation de la personne. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez magnifique. Il y avait trois jeunes hommes du Cenacolo, et on sait derrière ces hommes qui vivent au Cenacolo ce que peut représenter ce geste pour eux. Ça renvoie d'une certaine manière au geste que posait en son temps le pape François quand il allait laver les pieds des prisonniers en prison. Enfin voilà, des choses comme ça, et puis d'autres, enfin voilà, des bénévoles, des hospitalières. Enfin, il y avait voilà, une représentation du peuple de Dieu qui fait Lourdes.
C'est vrai que la liturgie est magnifique pendant ce Triduum. On ne la vit qu'une fois dans l'année, et puis très souvent on la redécouvre. Aujourd'hui, bien, c'est le Vendredi Saint. Évidemment, tous les chrétiens sont appelés à vivre un chemin de croix. Ce n'est pas sacramentel de vivre le chemin de croix.
Non. C'est vraiment une forme de prière dans l'Église, un aspect particulier de la prière de l'Église et de la dévotion populaire. On a des gens qui prient le chemin de croix tous les jours. Voilà. Il y en a d'autres pour qui le chemin de croix reste une prière exceptionnelle, celle du Vendredi Saint. Donc effectivement, le chemin de croix, revivre avec son intelligence, avec son corps, hein, voilà, en suivant ça, en faisant les différentes génuflexions, mais c'est revivre avec son corps le chemin que le Christ a vécu pour nous jusqu'à la croix, et c'est s'associer à cette offrande qu'il a fait de lui-même, offrande à laquelle nous sommes invités à nous associer depuis notre baptême. Voilà, quand nous passons, nous aussi, dans la mort et dans la résurrection du Christ.
On a besoin aussi de s'appuyer sur des représentations. Robin Dupont, vous êtes conservateur au sanctuaire de Lourdes. On pense immédiatement à ce grand chemin de croix des Espélugues qui se se situe au-dessus des basiliques de Lourdes. Ce chemin de croix est monumental. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Alors tout d'abord, il n'existe pas qu'un seul chemin de croix à Lourdes. Il existe des chemins de croix dans toutes les basiliques, par exemple. Par exemple, à la basilique de l'Immaculée et Conception, vous avez un chemin de croix qui se déploie dans les travées latérales, c'est-à-dire dans la travée sud, jusque dans le déambulatoire et la travée nord. Vous avez aussi le chemin de croix de la basilique Saint-Pidis, qui est représenté en gémaille.
Donc, en gémaille,
précisément. En gémaille, c'est en quelque sorte, ce sont des vitraux, mais qui s'exposent à l'intérieur, c'est-à-dire qu'au lieu d'être éclairés par la lumière extérieure, ils sont éclairés par des néons, tout simplement. Donc c'est une particularité à Lourdes. C'est un art qui est un peu en perte de vitesse, mais qui est encore assez présent au Japon, par exemple. Donc c'est assez intéressant. Pour des historiens de l'art, par exemple, c'est très intéressant. Voilà.
Oui, c'est ça. C'est vrai que l'artistique est important aussi quand on est ainsi, voilà, plongé dans la prière pour pouvoir se projeter. Vous dites qu'il y a d'autres
chemins. Oui, alors les deux principaux chemins de croix, nous les connaissons tous, c'est le chemin de croix des malades, enfin dit des malades, ou de la résurrection, et le chemin de croix sur la montagne des Espelugues.
Le chemin de croix des malades, il se situe où ?
Alors, il se situe dans la prairie, le long du Gave. Alors, ce chemin de croix des malades, c'est une réponse aux pèlerins à mobilité réduite. En 2001, Mgr Jacques Perrier, l'évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes de l'époque, a demandé à l'artiste Maria de Faycode de réaliser 17 stations en marbre de Carrare.
Donc, Père Baptiste, il y a un peu plus de stations que d'autres chemins de croix,
oui,
non, si mes calculs sont bons.
La liberté de l'artiste qui répond certainement à la commande de Mgr Perrier, c'est effectivement d'ajouter des stations, et comme le disait Robin, enfin, qui nous plonge aussi dans l'après-chemin de croix, c'est-à-dire dans cet événement, dans la résurrection, tout à fait.
Un chemin de croix fait de marbre de Carrare, c'est ça ?
Voilà. C'est le plus prestigieux des marbres, c'est le marbre des statues romaines. Donc, c'est le même matériau que la statue La Grotte, par exemple, de Fabiche. Donc, c'est vraiment un groupe de très belle qualité. Il a été inauguré en 2008.
Et puis, il y a évidemment, sur le mont des Espelugues, ce chemin de croix de 1,5 km de long,
Il serpente 1,5 km au cœur du paysage, de l'ambiance végétale. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Il y a 15 stations avec au total 115 personnages représentés. Alors, l'orfèvre, le sculpteur, c'est la maison Raffel de Paris. Mmh. Et ensuite, le fondeur, c'est Duren de Sommevoire, qui est un fondeur très prestigieux parisien. Il a été inauguré en 1912 sous l'épiscopat de François-Xavier Schaeffer, notre évêque de l'époque. Alors, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, mais c'est lui qui a fait la transition entre l'évêché de Tarbes et l'évêché de Tarbes et Lourdes.
Ah oui, donc qui a ajouté le « et E.T. » du nom du diocèse Tarbes et Lourdes.
Alors, il y a une petite anecdote intéressante, parce que la Scala Santa, c'est-à-dire la station du jugement du Christ, a été victime d'un dynamitage juste avant la venue du pape Jean-Paul II, en 1983, quelques jours avant. C'était une contestation à l'époque assez virulente, visiblement, de cette venue du pape. Et donc, la Scala Santa a explosé, mais alors, comme on dit entre nous, un peu familièrement, c'est un peu le karma, parce que le seul qui a été détruit, c'est Ponce Pilate, c'est notre procureur de Judée. Il faut savoir que la tête a été dynamitée et s'est retrouvée devant la basilique du Rosaire, c'est-à-dire à plus de 100 mètres de distance.
Ah oui, donc c'est
il faut savoir que la tête pèse 10 kilos. Donc vous imaginez, donc c'est assez, assez amusant. Donc la Scala Santa était entièrement, réaménagée pour...
Donc Ponce Pilate a retrouvé sa tête.
Voilà, et sa tête est sur mon bureau, sur un socle actuellement. En attente d'être mis en place, peut-être.
Nous savons, parce qu'on l'a déjà dit sur cette antenne, Robin Dupont, vous qui êtes conservateur du sanctuaire, il y a tout un travail qui se fait actuellement sur la restauration de ce chemin de croix qui a besoin véritablement d'être refait. Qu'en est-il ? Quel est le diagnostic ?
Alors, il faut savoir qu'on a émis des alertes depuis très longtemps, depuis très nombreuses années. Tout d'abord, c'était les éléments en bois, comme par exemple les croix qui étaient les plus altérées. Mais on a décidé l'année dernière, en fin d'année, en 2025, d'effectuer notre service un diagnostic d'état. Et il s'avère en fait que l'état est assez préoccupant. Alors, il faut savoir qu'il y a des altérations, notamment au niveau structurel, ce qui met en péril la stabilité des groupes sculptés, mais aussi, je dirais, une ambiance végétale qui est très imprégnante et qui pose problème, notamment par des insertions dans les éléments métalliques de lichen, de végétation et de d'humidité. Donc, ça provoque des oxydations, des éléments qui éclatent. Donc, et aussi toute la peinture. C'est la fonte de fer, mais la peinture, c'est une peinture couleur bronze. Elle s'écaille complètement, elle se délite. Donc, évidemment, il faut intervenir très rapidement. Il faut savoir que c'est un travail considérable qui est nécessairement mené, enfin, qui doit être mené par des restaurateurs qualifiés. Et nous, on a une exigence. Cette exigence, c'est des restaurateurs qualifiés, certifiés par les monuments historiques. Même si notre site n'est pas classé, on est seulement inscrit. Depuis 1995. Donc c'est notre rigueur personnelle qui nous conduit vers ça.
Merci Père Baptiste Pouchelu, c'est important de prendre soin de ce chemin de croix. À Lourdes, on peut l'imaginer. C'est vrai qu'on est forcément tourné vers la Vierge Marie à Lourdes, et c'est bien évident du fait de ses apparitions à Bernadette Soubirous. Et pour autant, en ce Vendredi Saint, faire ce chemin de croix, c'est aussi quelque part accompagner Marie. Comment méditer? Est-ce que le chemin de croix à Lourdes est médité d'une façon particulière, avec une touche mariale, j'ai envie de dire, ou pas?
Non, effectivement, à Lourdes, comme vous le disiez, on est tourné vers la Vierge Marie, mais la Vierge Marie nous conduit au Christ. Et moi, j'aime bien rappeler que, quand même, le premier geste, ou peut-être la première parole de la Vierge Marie, c'est celle du 11 février 1858, quand elle fait le signe de la croix. De rappeler justement que entre le monde de Dieu et puis la terre, ben il y a effectivement la présence de son fils qui s'est offert pour nous, qui sur le bois de la croix. Et puis autre chose aussi qu'on entendra tout à l'heure dans la lecture de la Passion selon saint Jean, au pied de la croix du Christ se tenait Marie sa mère. Donc effectivement, on comprend bien que dans une piété mariale, dans ce chemin de croix qui nous conduit jusqu'à cette station de la crucifixion, on a toujours au pied de cette croix Marie et puis Saint Jean, comme nous le rapporte l'évangéliste dans son évangile. Donc effectivement, il y a quelque chose d'accompagner Marie, en suivant le Christ dans son chemin de croix, il y a quelque chose d'accompagner Marie dans une des stations. Enfin voilà, le Christ croise sa mère, et c'est vrai que au sanctuaire, on essaye de faire une bonne place à cette dévotion mariale, même dans le chemin de croix, particulièrement dans ces stations où, la tradition nous dit que effectivement Marie a croisé son fils alors qu'il montait au Golgotha.
Avant de continuer, de poursuivre avec l'office de la Passion que vous ferez découvrir, peut-être juste un mot. Ce soir, le sanctuaire innove en proposant un chemin de croix éclairé à la lueur des flambeaux sur l'esplanade. C'est une nouveauté.
C'est une nouveauté, et les chapelains ont eu cette intuition-là. Avoir une célébration à la lueur des flambeaux le soir est quelque chose de tout à fait traditionnel au sanctuaire. Tous les soirs, de Pâques à Toussaint, grosso modo, on a cette procession mariale au flambeau. Voilà, ça, on sait faire. Et ça fait, c'est ça peut-être la première identité de Lourdes, c'est cette procession mariale au flambeau. Et donc, quand il s'est agi un peu de l'année dernière, quand on préparait déjà ce Triduum pascal, voilà. Puisqu'on sait faire, pourquoi est-ce que on garderait pas cette tradition d'une prière nocturne au flambeau? Et en ce jour du Vendredi Saint, c'était comme une évidence, c'est apparu comme une évidence que ça puisse être le chemin de croix. Et plutôt que d'avoir en soirée du coup l'office de la Passion, et c'est ce que propose aussi le missel. vers 15h, dans l'après-midi, on célèbre l'office de la Passion, et puis on met à un autre moment le chemin de croix. Et bien, nous, du coup, puisqu'il fallait le mettre à un autre moment, on a gardé cette prière du soir au flambeau, parce que c'est ça participe de l'identité du sanctuaire.
On marque une très très courte pause, et puis on se retrouve tout de suite.
Yesterday, I saw the sun. Cold hands needed a warm touch, and I was thinking about you. But here I am, looking for signs to lead me. You hold my hand, but do you? It's time for me to let you go, but I'll be thinking about you. I'll be thinking about you.
Nora Jones sur Présence, Thinking About You.
Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelegue.catholique.fr ou contactez votre diocèse pour faire un legs. Léguer à l'Église catholique, c'est dire oui à l'espérance, maintenant et toujours.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Et retour dans les studios de Radio Présence Lourdes-Pyrénées avec David Torchala et ses invités.
Oui, Joseph, je suis aujourd'hui avec le père Baptiste Pochulu, qui est responsable de la liturgie et cérémonière du sanctuaire, et également avec Robin Dupont, conservateur du sanctuaire de Lourdes. Nous évoquions évidemment le chemin de croix en ce jour du Vendredi Saint. Et puis, nous venons maintenant sur l'office de la Passion. Père Baptiste Pochulu, vous nous avez dit... Il démarra à 15h et cette heure n'est pas choisie au hasard. Pourquoi ?
Traditionnellement, c'est ce qu'on appelle l'heure de la miséricorde. Dans une forme de dévotion populaire, pas mal de gens s'arrêtent à 15h pour avoir justement cette intention de prière ou cette pensée, voilà, de se dire que c'est à cette heure-là que le Christ expira pour nous sur la croix. Donc, commencer l'office de la Passion à cette heure-là, voilà, c'est reprendre quelque chose de l'ordre de la tradition de l'Église, de la dévotion populaire, à l'heure où, selon la tradition, le Christ inclina la tête et il remit l'esprit à son Père.
Vous qui êtes responsable de la liturgie ici à Lourdes, et vous ne le direz pas, mais nous le savons, vous êtes un fin expert, ce sont des liturgies que nous n'avons pas l'habitude de vivre, parce que c'est qu'une fois dans l'année, et donc parfois on oublie. Qu'est-ce qui est à vivre au cours de l'office de la Passion?
Alors, il y a plusieurs grands moments dans cet office de la Passion. Il y a la grande procession d'entrée en silence avec tout le clergé réuni. Et puis nous, au sanctuaire, à 15h aujourd'hui, donc c'est Monseigneur Jean-Marc Mica, évêque de Tarbes et Lourdes, notre évêque, qui présidera cet office. Donc voilà, une grande procession d'entrée et puis cette grande prostration. Voilà, où le prêtre, Monseigneur, s'allonge de tout son long, à l'heure où le Christ, est mort, a donné sa vie, voilà, dans cette qui rappelle ce don total, voilà, qui rappelle aussi quelque chose de la prostration que chaque prêtre a vécu au jour de son ordination, enfin diacre, prêtre et évêque, voilà, à chacune des des étapes du sacrement de l'ordre, mais voilà, on retrouve cette grande prostration, le don total. Donc ça, c'est la première chose marquante, ce silence et cette prostration. Et puis ensuite, on a la grande lecture de la Passion selon Saint Jean, et puis certainement les trois moments marquants de l'office de la Passion, la grande prière universelle pour le monde, avec ses 10 intentions tirées du missel, voilà, qui permettent de prier
en quoi
pour tout
cette
le monde.
Prière universelle est-elle différente de celle d'un dimanche?
Celle-là, elle est inscrite dans le missel. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment le dimanche, effectivement, chaque communauté va pouvoir dans cette prière présenter une intention particulière, un souci particulier, en lien bien sûr avec le monde. Là, celle-là, elle est dans le missel, c'est-à-dire c'est l'Église qui nous invite, voilà, à la prière dans quelque chose de qui s'inscrit dans voilà dans une dimension vraiment universelle, catholique, traditionnelle aussi, où aujourd'hui, eh bien voilà, dans le monde entier, l'Église adresse à Dieu la même prière. Donc c'est quelque chose qui est quand même pas anodin. Voilà. Donc effectivement, plutôt que d'avoir quelque chose de l'ordre un peu de l'inventivité le dimanche, là c'est quelque chose vraiment qu'on reçoit de l'Église. Et ça c'est quand même assez beau. Et puis c'est beau de se dire, ben voilà, nous à Lourdes, on va avoir les mêmes intentions de prière que à Notre-Dame de Paris, à Rome, voilà, dans d'autres endroits du monde. Enfin, je pourrais parler des Philippines, de la Bolivie, enfin voilà, du monde entier.
Vous auriez pu parler du Pays Basque. Aussi.
J'aurais pu parler du Pays Basque.
Votre accent vous trahit. Salut, nos amis du Pays Basque qui nous écoutent.
Et du coup, enfin voilà, donc c'est ça qui est beau. Enfin voilà, c'est-à-dire, on reçoit quelque chose et qui là nous fait goûter à la fois cette universalité et cette unité de l'Église à travers cette grande prière que l'Église, cette grande supplication que l'Église adresse au Seigneur. Donc voilà. Et après cette grande prière universelle, eh bien donc l'adoration de la croix. Voilà, hein, la croix qui est portée voilée en procession dans l'église, et puis à l'entrée du chœur de l'église. Alors bien sûr à Saint-Pédis on s'adapte parce que le chœur étant au milieu de la basilique, il faut s'adapter. Mais voilà, effectivement, où par trois fois celui qui préside, voilà, voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde, et les gens répondent venez adorons, et puis on se met à genoux pour un temps d'adoration, et puis après chacun est invité à passer devant cette croix pour poser un acte d'adoration.
C'est saisissant de voir la croix voilée.
Ah oui, c'est dans toute cette symbolique des jours saints, effectivement, tous les symboles, tous les signes sont parlants et nous renvoient à la profondeur de ce que l'on vit, de ce qu'est le mystère de notre foi, qui se traduit d'une manière liturgique pour prêcher pour ma paroisse. Du coup, donc voilà, donc effectivement, rien n'est anodin, tout a un sens. Voilà.
Et quand, par exemple, sur voici le bois de la croix, quel est le sens de cette phrase?
Ah ben c'est présenté aux gens. Les consignes, enfin les rubriques sont claires. Hein, effectivement, il faut que sur cette croix y ait un crucifié. Enfin voilà. Donc effectivement, c'est vraiment et puis ça devient objet d'adoration. C'est-à-dire, on fait une génuflexion devant cet objet de supplice, devant celui qui est suspendu au bois de la croix. Et donc effectivement de le présenter, eh bien c'est effectivement voilà ce que l'on vit aujourd'hui. Et vous voyez, mais ça nous renvoie, enfin, cette offrande sur la croix, elle est rendue présente à chaque Eucharistie d'une manière non sanglante, non violente. Là, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de consécration. Aujourd'hui, on n'entendra pas « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ça, on ne l'entend pas. Mais du coup, on le vit d'une autre manière, puisque aujourd'hui, eh bien, on voit, par contre, le bois de la croix, que « ceci est mon corps, ceci est mon sang », auquel ça nous renvoie à chaque Eucharistie.
Il n'y a évidemment pas de consécration, mais pour autant, on va communier.
Et effectivement, et c'est la dernière un peu étape, la dernière partie de cet office de la Passion. Effectivement, c'est la communion avec donc la réserve eucharistique qui a été consacrée lors de la messe du jeudi soir. Voilà, la communion aux présanctifiés, comme on les appelle. Voilà, c'est le Christ mort et ressuscité qui même ce jour-là, enfin voilà, vient à nous, vient se donner à nous. Voilà. Donc cette, déjà cette foi aussi en la résurrection qui est bien signifiée par ce geste de communion que l'on pose au cours de cet office de la Passion.
Et puis après va venir bien le temps de l'attente,
oui.
De ce samedi saint. C'est peut-être un jour un peu de repos pour un cérémoniaire ou pas, parce que finalement on est tous dans l'attente, en tout cas de la vigile.
Oui c'est ça. Comme il n'y a pas d'autres offices, enfin, au sanctuaire on prie l'office des ténèbres, c'est-à-dire l'office des lectures et l'office des laudes le matin avec toute la communauté de chapelains. Et puis c'est pas que la communauté de chapelains. Ce matin la basilique du Rosaire était pleine de files, donc c'est quand même 800 places assises, donc il faut, enfin voilà. C'est assez impressionnant de voir l'Église rassemblée et en prière. C'est ça qui est très beau, qui est très touchant. Et effectivement, mais il faudra, pour le cérémoniaire, il faudra quand même préparer l'office de demain soir. Enfin, voilà, avec lui aussi qui est très très développé. Hein, voilà, avec la bénédiction du feu, les nombreuses lectures, la liturgie de l'eau et puis la liturgie eucharistique. Et donc, toutes ces étapes, de la vigile pascale font qu'il y a un peu de préparation.
Et puis beaucoup d'émotions, en tout cas, qui nous traversent pendant ce triduum. Hein, voilà, donc à travers vraiment la liturgie de la Passion, la vénération de la croix, la prière aussi du chemin de croix. Et il faut venir les voir, ces chemins de croix, et les prier à Lourdes tant ils sont beaux. C'est vrai que l'Église nous donne, vivre presque pas à pas, voilà, les dernières heures du Christ, et qui nous amène à la résurrection.
Ben oui, nous aime aussi. Hein.
Et il nous aime aussi, c'est vrai. Et en tout cas, on connaît la fin de l'histoire toujours, mais on a tous vécu tant de Pâques. Peut-être un dernier mot, comment vivre peut-être plus intensément cette année, selon vous?
Je vais reprendre. Hier soir dans l'homélie, j'invitais les gens à contempler le geste d'abaissement que le Christ fait avec ce lavement des pieds, et qui est très lié à cette offrande sur la croix. Donc pour nous aussi, du coup, redécouvrir cet abaissement comme étant le moyen dont par lequel le Seigneur nous appelle à être élevé.
Merci Père Baptiste Pochelu, merci Robin Dupont d'être avec nous, et poursuit nos programmes, cher Joseph.
Je vous remercie, cher David. Merci à nos invités pour cet éclairage concernant le Vendredi Saint. D'ailleurs, ça me permet d'avoir une transition toute faite pour vous rappeler que vous pourrez vivre sur notre antenne à partir de 15h la procession ainsi que le chemin de croix depuis la cathédrale Saint-Étienne à la basilique Saint-Cernin à Toulouse, et puis l'office de la Passion qui sera célébré à Notre Dame de la Dorade à partir de 19h. Voilà le programme de ce Vendredi Saint. On se retrouve dans quelques instants.
Même sourire d'enfant, même air qu'on respire en même temps, sans amour certain, comme ça et le froid sur leurs mains. Oh, 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 oh. Jésus, l'entends-tu, ces filles et ces garçons perdus, ne sont-ils pas assez précieux du haut de tes yeux délicieux? Oh Jésus, roi du ciel, nos âmes volent avec leurs ailes, toi tu choisis lesquelles, même désir d'amour, les mêmes je t'aime toujours, même navire certain, à côté du chemin. Ils vont sans rien, sans espoir, le matin, le soir. Ces dames et ces messieurs pieds nus ne sont-ils pas assez gracieux, trop bas pour tes yeux délicats? Oh Jésus, roi du vent, nos âmes volent pareillement. Toi tu choisis comment, même
sur Présence.
Présence sur le Causse 106.5.
On poursuit ce Présence Midi un petit peu spécial avec la chronique solidaire de Anne Deloye. Aujourd'hui, elle est en compagnie de Elisabeth Lemierre. Le sujet abordé, bien sûr, le Vendredi Saint.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Et oui, aujourd'hui, notre invitée dans Solidairement Vôtre est Elisabeth Lemierre. Mais c'est une personne qui est bien connue de nos auditeurs. Hein, vous avez déjà eu l'occasion plusieurs fois de donner votre témoignage, mais aussi de nous parler vraiment, concrètement, de votre mission comme aumônier des hôpitaux. Alors rappelons d'ailleurs que vous êtes engagée comme aumônier à l'hôpital de Bagnères, à l'EHPAD Castelmouly de Bagnères, mais aussi à l'hôpital de Montaigu à Astigues. Alors aujourd'hui, Elisabeth, c'est le Vendredi Saint, une date importante dans notre vie de chrétien. Justement, je vous ai invité pour qu'on aborde ensemble un thème qui est à la fois profond et délicat, la passion. Mais qui dit passion, va dire aussi résurrection. Donc on va parler de la passion de la résurrection du Christ qui est vécu dans le contexte de la maladie et de l'accompagnement en milieu hospitalier. Alors Elisabeth, moi je dis toujours, quand on parle de la passion du Christ, bien immédiatement nous vient en tête la souffrance. Comment la passion rejoint-elle ce que vivent les personnes malades aujourd'hui ? Et tout cela à la lumière de ce que vous vivez vous-même au sein des hôpitaux.
Oui, la passion à l'hôpital, la souffrance à l'hôpital. Tout d'abord, je voudrais vraiment dire que mes propos vont être teintés par l'expérience que j'ai actuellement, qui est essentiellement en gériatrie, aux côtés des personnes du grand âge, comme on dit aujourd'hui. Qui sont de passage et qui vont après aller dans une autre structure ou rentrer à domicile ou qui vont partir au ciel. Donc aujourd'hui, la souffrance en France, on peut dire que la souffrance physique, elle est normalement assez vite soulagée. Voilà. Avec des petites nuances, bien sûr, parce que chacun est différent, y compris en termes de résistance au traitement. Mais n'empêche que, voilà, moi j'ai plus envie de parler, c'est plus mon expérience, de la souffrance psychique, sociale. La souffrance liée au deuil, par exemple. Le deuil de se dire, qu'est-ce que je vais récupérer en termes d'autonomie? Est-ce que je vais pouvoir reprendre ma vie comme avant? Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? Comment va être ma vie de demain? Voilà, ça on peut dire que c'est un peu l'accompagnement des deuils de la vie quotidienne, quand il y a eu un accident de la vie ou quand le grand âge est là. Et puis il y a toute la souffrance qui peut être bien présente quand le grand moment du départ pour les croyants, qu'on peut dire départ vers le ciel, arrive. On connaît la nuit de la foi chez les grands saints. Cette nuit de la foi peut aussi habiter des gens tout simples comme nous, comme vous, comme moi, comme les auditeurs. avec un peu de doute qui arrive aussi dans ces moments-là, en se disant bah, j'ai cru très fort, j'ai pratiqué toute ma vie, pratiqué l'évangile, pratiqué la charité, j'ai pratiqué les sacrements, mais quand même, comme disent les gens, personne n'en est revenu. Donc voilà, c'est l'acte de foi à poser. Là, on peut dire que de ce point de vue-là, c'est le Vendredi Saint, même si moi, je ne suis jamais à l'aise pour comparer une souffrance à une autre, c'est-à-dire celle du Christ et celle des autres, parce qu'on est unique, on est différent, on ne compare pas la souffrance des uns et des autres. Mais il y a quelque chose de cet ordre, quand même.
Alors justement, dans ce contexte, Elisabeth, on sait que l'aumônerie catholique, c'est vraiment une présence au cœur de la souffrance. Comment, concrètement, dans votre mission d'aumônerie, cette présence du Christ se traduit-elle ?
Alors effectivement, hein, vous avez la belle définition de l'aumônerie. L'aumônerie, c'est être là, envoyé par le Christ pour être signe, envoyé par l'Église et le Christ et l'Église, pour être signe de l'amour de Dieu pour chacun de nous, de sa compassion, de sa présence à nos côtés. Il y a bien des moments où nous sommes démunis, où nous sommes comme Marie au pied de la croix. C'est pour ça que souvent, nous parlons du silence aussi dans les rencontres. Quand quelqu'un partage son histoire de vie ou quand quelqu'un partage sa souffrance, son angoisse, c'est pas le moment de faire de la grande théologie ou de sortir des grandes idées. Parfois, c'est juste le moment d'être là, en silence, comme Marie au pied de la croix, d'être là à tendre un mouchoir ou à essuyer des larmes, d'être là à tendre la main. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu notre première posture, le fondement de notre première posture. Écouter, être là, pour être signe du Christ qui est là, qui souffre avec.
Et oui, Elisabeth, à travers ce que vous dites, là, on sent bien que les moments, les rencontres, ce que vous vivez avec la personne malade, peut-être avec leurs proches, eh ben, ça ouvre quelque chose hein, dans le cœur de chacun, peut-être une forme même de paix intérieure. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore concernant peut-être des réconciliations avec soi-même ou avec les autres, avec Dieu? Est-ce que vous pensez à une rencontre particulière qui illustre cela?
Alors, chaque situation est singulière. Ça, on ne peut pas faire de généralité. Mais on sait bien, quand on est aumônier d'hôpital, qu'il y a des moments où nous sommes vraiment touchés au plus profond de nous-mêmes par ce que nous voyons. Moi, j'ai envie de dire que, effectivement, je me souviens très bien de quelqu'un qui commençait à être dans un coma assez profond. Et quand je suis allée prier à ses côtés, parce que c'est quelqu'un qu'on accompagnait, nous, l'aumônerie, depuis un moment, et ben, en fait, cette personne, au moment où j'ai commencé Notre Père, en lui tenant la main, cette personne a manifesté qu'elle était présente par un battement de paupières, léger, mais quand même. Donc, on voit bien là que la foi inscrite au plus profond du cœur ne s'efface pas. Et que même si les repères que nous connaissons dans la vie de tous les jours peuvent partir, eh ben, la foi est bien là. Ça, c'est incroyable. Je peux dire que là, il y a quelques jours, j'accompagnais une dame depuis très longtemps à l'EHPAD. Cette dame était sur le départ. Cette dame était très proche des prêtres de sa paroisse depuis très longtemps parce qu'elle y avait été très engagée, simplement, voilà. Et il me semblait que cette dame avait du mal à partir, à lâcher. Sa famille était autour du lit, j'ai une très belle relation avec la famille, on discute beaucoup. Et puis on décide d'appeler un prêtre pour qu'il vienne, même si elle avait déjà reçu le sacrement des malades plein de fois, que moi j'avais beaucoup prié avec elle, béni avec la famille, avec de l'eau bénite, hein, on pose un geste de bénédiction ensemble. Et du coup, on appelle le prêtre et je dis que c'est assez urgent quand même. Et puis, le prêtre finalement dit, bah, j'arrive maintenant. Bon, moi, j'étais partie dans l'entrefaite. Et en fait, cette dame, la famille m'a dit, en fait, cette dame est partie paisiblement, beaucoup plus paisiblement qu'avant. Et moi, quand le prêtre m'a appelé, il était en route en me disant, finalement, j'arrive maintenant. Je lui dis, bah, c'est bien, parce que je pense que ça va l'aider à partir dans la paix. Et ce qui était incroyable, c'est que cette dame, je suis allée la voir après son décès. Et comme m'a dit ses filles, hein, elle avait un petit sourire. Ah. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, oui, tout à fait. Ça, pour moi, ce sont des signes de la présence de Dieu à nos côtés, des signes de résurrection. Je pense à une dame aussi qui disait un jour où le prêtre venait lui donner sa commande des malades. À la fin, elle dit, vous savez, monsieur l'abbé, j'ai pas peur de mourir. Hein. Bon, bah, ça disait quelque chose de fort. Après les derniers instants, j'étais pas là à ce moment-là, mais ça disait, il lui a répondu, vous avez bien raison de ne pas avoir peur de mourir.
Merci Elisabeth. Et pour vous, justement, qu'est-ce que la passion, la résurrection change dans votre mission même auprès des personnes malades et de leurs proches? Est-ce que pour vous, personnellement, ces jours où on se rappelle de la passion du Christ, mais qu'on va fêter la résurrection dimanche, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Moi, j'ai reçu la grâce d'avoir une grande foi en la résurrection, sans doute parce que on a été assez éprouvés en famille. Et donc moi, vraiment, je crois très fort au passage avec le Seigneur vers ce monde qui continue autrement, certes, mais qui continue. Et quand je connais très bien les gens, parfois je leur dis, bon bah écoutez, rendez-vous au ciel. Et on verra laquelle des deux attend l'autre. Bon, parfois j'ai une petite idée quand même si la vie peut vite basculer. Mais voilà, et ça c'est... Il y a des soignants qui m'ont entendu dire ça et qui à la sortie dans le couloir m'ont dit « Mais c'est incroyable, il faut qu'on en discute avec toi parce que c'est incroyable. » Donc moi, ça me renforce vraiment dans cette foi en la résurrection, dans le Seigneur qui attend chacun de nous, dans cette grâce que nous avons d'avoir la foi. Quand les gens l'ont pas, on parle d'amour qui ne s'éteint pas, etc. Hein, parce qu'on accompagne aussi des gens qui n'ont pas la foi. Mais vraiment l'amour qui continue au-delà et le Seigneur qui attend les bras ouverts.
Merci Elisabeth, c'est un beau témoignage et un beau message que vous donnez à nos auditeurs. Alors on va vous souhaiter un bon week-end de Pâques à vous et à tous nos auditeurs, puis que ce temps apporte chacun réconfort et espérance. Au revoir Elisabeth, à une prochaine
merci
fois.
Merci et bonne fête de Pâques à chacun et chacune. Et
merci Anne Deloye. Une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de la radio, radioprésence.com. On se retrouve dans quelques instants avec Anne-Rose Jankovic qui nous fera découvrir un saint bien connu de la Bigorre. C'est Saint Cernin, à tout de suite.
Remember me when the west wind moves upon the fields of barley.
Dios olivier, ti nascurderà camminando in tardo.
Un soggio tocco la fa tu gizu. Upon the fields of Bali,
ed una garezza si sa strinti a pen mezzo a quelle d'are d'oro.
Will you stay with me? Will you be my love? Upon the fields of Bali,
Dios Olivier, ci nascurderemo una notte intera.
Et Mouvrini et Sting qui chantaient en duo La Terre d'eau rouge, comme prévu et comme promis, nous retrouvons Anne-Rose Jankovic qui va nous faire découvrir ou redécouvrir un saint de notre région, Saint-Cernin, différemment appelé également Saint-Saturnin.
Présence dans la cité mariale 96.
Bonjour Abbé Benjamin Martin.
Bonjour Anne-Rose.
On va d'abord commencer par situer Saint-Cernin dans le temps, dans son contexte historique, peut-être nous pencher sur la Gaule. Comment était la Gaule à ce moment-là et où en était le christianisme? C'est le tout début.
C'est le tout début du christianisme, effectivement. Notre Seigneur Jésus le Christ serait mort aux environs de l'an 33. L'apôtre Pierre aurait offert sa vie en l'an 64. Là, nous faisons quelques bonds dans la vie de l'Église et nous nous retrouvons avec le 20e successeur de l'apôtre Pierre, le pape Fabien, qui sera pape de l'an 236 jusqu'au 20 janvier 250. Pour nous, ça paraît un petit pontificat, mais à l'époque de construction de l'Église, où beaucoup meurent martyrs, c'est déjà un long pontificat. Le pape Fabien est important parce que on le considère comme l'apôtre de la Gaule, parce qu'il va envoyer, en tant que successeur de l'apôtre Pierre, 7 évêques pour évangéliser la Gaule. Et parmi eux va arriver Cernin. Cernin que l'on appelle aussi, dans notre tradition, Saturnin. Alors Cernin va arriver dans un contexte où l'Empire romain est bouleversé, assez divisé. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a une succession de morts d'empereurs, des querelles de succession, des querelles dans l'Empire. Et comme chaque fois dans l'Empire romain que l'on traverse ce genre d'instabilité, on a une pensée pieuse. On se dit, c'est parce que nous n'honorons pas assez les dieux traditionnels de Rome et le culte légitime dû à l'empereur. Alors, que va faire notre empereur Dèce, qui lui est empereur de 249 à 251, vous voyez, un très court règne, puisqu'il va mourir lui aussi dans une bataille. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va décider, au début de l'an 250, d'imposer à tous ses citoyens de sacrifier au dieu protecteur de Rome. Et il va donc y avoir des mesures répressives contre les chrétiens. C'est la première persécution, qu'on appelle la persécution de Dèce. Et une fois que les chrétiens auront sacrifié au dieu, ils auront un libellus, c'est-à-dire comme une attestation, on a connu ça en temps de pandémie, comme une attestation pour dire on est vraiment conforme à l'autorité impériale, on est chrétien mais on a sacrifié au dieu. Et vous comprenez que là, il y a un problème.
Parce que déjà, certains chrétiens peut-être ont cédé, mais d'autres comme Cernin n'ont pas voulu céder.
D'autres, comme Cernin, n'ont pas voulu céder, mais le pape lui-même ne cédera pas. Le pape Fabien, refusant de sacrifier aux idoles, va être aussi martyrisé à la même époque que Saint Cernin, qui lui, avant d'en arriver à son martyre, va donc, sur la volonté du pape, venir évangéliser notre sud de Gaule. Il va passer par Nîmes, on va le retrouver à Pampelune, vous voyez, les frontières ne sont pas encore les nôtres, en Espagne donc, en Hispanie à l'époque, et il va s'établir à Toulouse comme prêtre, comme évêque, premier évêque de la cité de Toulouse. Cernin se rend dans le lieu chrétien, sans doute aux environs aujourd'hui de la cathédrale, le premier lieu chrétien, et pour cela il doit passer par le forum. Comme il y a cette persécution latente des chrétiens, les prêtres païens disent à la population qu'il faut un peu galvaniser contre les chrétiens pour une meilleure unité de l'Empire, qu'ils n'arrivent pas à vraiment communiquer avec les dieux, leurs oracles ne sont pas clairs à cause de Cernin et de cette première communauté chrétienne qui empêche vraiment la bonne communication avec les dieux, cette pacification des mœurs, stabilité de l'Empire.
On dirait qu'il brouille la communication avec les dieux.
On pourrait dire ça. Et donc, Cernin passe au forum pour se rendre, comme de coutume, à l'église, pour vivre de l'unique sacrifice du Christ. Hein, la messe est la réactualisation non sanglante du sacrifice du Christ. Et on reconnaît Cernin. Et donc, du coup, on le prend et on lui impose, selon la volonté de l'empereur, de sacrifier
au dieu païen.
On a préparé un taureau pour faire des libations avec le sang. Et Cernin refuse de sacrifier à ces dieux païens ne vivant que de l'unique sacrifice du Christ. Alors on va l'attacher au taureau, puis dans ce forum, il va dévaler toutes les marches. Le taureau, que va-t-il faire? Il va suivre sa course folle, on imagine, ce taureau, l'excitation de ce taureau. Il était
avec
prêt,
la foule autour.
La foule autour, il sentait bien qu'il n'en avait plus pour longtemps. Donc là, la possibilité de s'échapper, il ne part pas dans un pas majestueux. Il dévale cet escalier et cause du coup la mort de Saint-Cernin. Alors, Saint-Cernin, il va passer à travers la porte nord, c'est-à-dire la place du Capitole aujourd'hui, et il va se retrouver détaché du taureau sur la rue de Cahors, qui est aujourd'hui la rue du Thor. Thor, taureau. Voilà. Et on va l'enterrer là brièvement, parce que c'est un chrétien et qu'on veut garder son souvenir, c'est le martyr. Et ensuite, voilà que ses successeurs vont établir la basilique de Saint-Cernin que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, il est un des premiers martyrs. Est-ce que vous diriez qu'il a servi d'exemple pour mettre un petit peu de pression?
Alors, premier martyr, il y a de très nombreux martyrs, puisque le premier martyr est Saint-Étienne, mais...
Dans cette vague-là,
d'abord le pape Fabien, on aura Saint-Agathe aussi, qui a un grand rayonnement, et bien sûr, Cernin. Alors Cernin, oui, il y aura dans notre sud de France, il est considéré comme notre évangélisateur, donc il y a un grand retentissement vis-à-vis de cela, qui va se manifester dans le culte que l'on va lui rendre sur sa sépulture. Maintenant qu'il a montré qu'il n'appartenait qu'au Christ, puisqu'il ne vit que de son sacrifice, mm-hmm. et qu'il va verser son sang à la suite de celui du Christ. Du coup, pour les chrétiens, dans cette famille surnaturelle qui est l'Église, c'est vraiment un intercesseur auprès du bon Dieu. Il doit nous aider à vivre de cet évangile qu'il a annoncé jusqu'au bout, comme le Christ qui n'est pas descendu de la croix, mais qui a offert sa vie pour que nous ayons, nous, la vie en abondance. Donc c'est devenu vraiment le modèle de celui qui donne tout jusqu'à se sacrifier à la suite de son Seigneur.
Alors ça, c'est son héritage spirituel dont on a su profiter dès après sa mort et jusqu'à aujourd'hui.
Oui, les saintes puelles qui sont donc de chrétiennes, vont rapidement récupérer la dépouille du saint, oui. pour l'enterrer. Ensuite, Hilaire, qui est un des compagnons de Saint-Sernin, oui. qui va devenir son successeur, va faire en sorte de reprendre le cercueil et déjà de bâtir un petit lieu pour rendre sa mémoire, son culte. Et ensuite, Saint-Sylve et surtout Saint-Exupère, dont nous reparlerons, qui vont vraiment construire une basilique déjà importante, qui sera consacrée par Saint-Exupère. Donc c'est que le culte que l'on rend à Sernin est déjà très présent.
Alors, on le lit beaucoup à Toulouse, mais on comprend en vous écoutant, mais Benjamin Martin, qu'en fait, c'est toute la région du Sud, là, le Gers, la Bigorre, enfin, qui était un territoire pas délimité comme aujourd'hui, mais enfin, c'est tout ce Sud, là, jusqu'à l'Espagne, qui doit sa connaissance du Christ à Saint-Sernin.
Alors, à Saint-Sernin, envoyé par le pape Fabien, hein, voilà, c'est-à-dire, c'est aussi le successeur de Pierre qui envoie des missionnaires, dont Saint-Sernin.
Parmi les héritages visibles qui nous restent, les signes visibles, donc évidemment à Toulouse, bien sûr, cette basilique Saint-Sernin, et puis dans nos territoires plus ruraux, de nombreuses églises dédiées sous le patronage de Saint-Sernin ou
Sernin, que l'on peut appeler aussi
Saturnin.
Voilà.
Enfin,
c'est la politique aussi de l'Église, si on peut dire, dans sa pastorale. Comme il a fallu christianiser un certain nombre de fêtes et d'attitudes, Saturne, le dieu Saturne, Sernin, Saturnin, ça permettait d'avoir aussi ces noms qui deviennent chrétiens. Mais à l'époque, on a des noms qui sont latins ou qui viennent du grec, de différentes cultures. Donc Sernin vraiment a profondément marqué. Aujourd'hui, il y a donc cette grande basilique qui renferme son tombeau, mais un vieux lieu chrétien comme le village de Pouzac, qui conserve une relique de Saint-Sernin, de Saint-Saturnin, est aussi là parce que juste à côté de cette église qui est excentrée du village, se trouvait une grande villa gallo-romaine avec un temple dédié à Saturne et ensuite une église, première église dédiée à Saint-Sernin que l'on a appelé Saturne, Saturnin.
Donc c'est vraiment un témoignage aussi de la conversion des cœurs, de la foi, mais aussi la conversion d'une culture et d'une société.
Dans une époque extrêmement troublée, puisque là on a parlé de la première persécution, il y aura d'autres persécutions de chrétiens jusqu'en 313, où là il y aura l'édit de Milan et une forme de pacification de l'Église, et donc pour l'Église, une possibilité de s'inscrire plus paisiblement dans le temps, de s'organiser dans la dimension de la foi.
Comment Saint-Sernin peut-il nous inspirer, nous aider, nous accompagner durant cette première semaine du temps de carême ?
Le temps du carême est là pour que nous nous recentrions sur le Christ qui est vraiment l'alpha et l'oméga de tout, de toute notre vie chrétienne. Ben voilà, nous avons reçu la foi du Christ à travers le message des apôtres et de ses successeurs, et Saint-Sernin, nous l'accueillons ainsi comme notre évangélisateur, celui par qui l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Alors nous lui demandons, eh bien comme lui, de savoir vivre que de Dieu et de ne vivre que de ce sacrifice du Christ qui nous abreuve par son corps, par son sang, à chaque fois que nous célébrons la messe. Puisse donc Saint-Sernin, eh bien, en ces temps de nouvelle évangélisation, comme nous disons, eh bien, nous aider, nous soutenir dans chacune de nos initiatives missionnaires, à nous aider à vivre de cette radicalité du Christ.
Voilà, le père Benjamin Martin, curé de la paroisse de Luz-Saint-Sauveur dans les Hautes-Pyrénées. Il était au micro de Anne-Rose Jankovic. C'est ainsi que s'achève ce Présence Midi. Je vous rappelle les grands rendez-vous concernant ce Triduum Pascal à vivre sur l'antenne de Radio Présence. Bien entendu, cet après-midi, le chemin de croix avec la procession de la cathédrale Saint-Étienne à la basilique Saint-Sernin à Toulouse débutera à 15h. À vivre donc en direct sur notre antenne de 15h à 17h. L'Office de la Passion du Vendredi Saint sera, lui, diffusé à partir de 19h en direct de Notre-Dame de la Daurade, de 19h à 21h15. Demain, c'est Samedi Saint, avec une table ronde de 9h à 10h. Et bien sûr, dimanche, le dimanche de Pâques, sera à vivre sur notre antenne à partir de 11h avec la messe de Pâques qui sera célébrée à l'église Saint-Marc, une messe qui se terminera aux alentours de 13h. Voilà les rendez-vous de ce Triduum Pascal sur l'antenne de Présence. Je vous souhaite de le vivre avec beaucoup de foi et beaucoup de joie et d'espérance, bien sûr. À toutes et à tous, très belle journée.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Vendredi Saint au Vatican, c'est au Colisée que se tiendra le traditionnel chemin de croix dont les méditations